Sicilia.
Les infos choisies.
Chaque vendredi de 12h30 à 13h.
Sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos.
Qui nous touchent.
Qui nous concernent.
Qui nous ressemblent.
Qui nous parlent.
Qui nous donnent de la force.
Qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Trop. Ça brille trop. Le siècle des Lumières.
Le pays des Lumières.
Ces grands hommes courageux qui ont construit fièrement la République.
Ah, le pays de la démocratie et des droits de l'homme.
Et on bourre encore des crânes à l'école avec toutes ces conneries.
Et ouais, cette illusion, elle continue alors que ça craque de partout depuis un moment déjà.
Ça déborde même. Donc ce soir, alors que des feux d'artifice sont censés célébrer des émeutes de la fin de 1789 qui ont mené à la grande et belle révolution française,
hein.
130 000 policiers, dont le RAID, le GIGN et la BRI.
Et des hélicoptères et des véhicules blindés de la gendarmerie qui traqueront toutes et tous des fauteurs de troubles.
Des moyens exceptionnels du 13 juillet au soir au 15 au matin. Une grande démonstration de force pour maintenir la République debout, jusqu'ici en tout cas.
On rappelle quand même que Mohamed B, 27 ans, s'est effondré dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille, après avoir reçu un tir de flashball dans le thorax d'une crise cardiaque. Qui d'autre demain fera les titres des faits divers de la Provence? Combien de morts en marge des manifestations après Zineb et Mohamed? Et combien de morts dans les quartiers après Naël à Nanterre et Souhel à la Belle de Mai?
Dans son rapport annuel, la Commission nationale consultative des droits de l'homme alerte sur les discours politiques ou médiatiques prompts à faire de l'étranger ou des immigrés la cause de tous les maux et déplore des préjugés toujours trop partagés. Un rapport qui alimente la presse, mais avec lequel le gouvernement se torche, comme les mesures climatiques ou la sortie du nucléaire. Ils doivent avoir plus de papier que de merde à sortir du fond de leur tripe.
Et puis, la rue réagit contre des crimes policiers, contre un projet de retraite.
Contre des méga-bassines.
Et l'ordre réprime.
Mais, ce qui change tout, c'est que c'est un ordre républicain.
Ah, bah oui. Alors du coup, ça brille encore un petit peu, quand même. Trop de lumière, ça éblouit.
On est vendredi, les 12h30, c'est les infos choisies. Merci à tous et toutes d'être là.
Vous êtes bien sur Radio Galère et Ayoli Radio à Avignon. Voilà, on est en direct de 12h30 à 13h, comme tous les vendredis.
C'est pas nous la violence ! C'est pas nous la violence !
Ils nous ont interdit de marcher à Pont-Mossuroise. Ils nous ont rendu encore plus fort parce qu'on est là. Ça fait 7 ans et on lâchera jamais. L'histoire racontera que le peuple français s'est levé, que le peuple français s'est levé pour sa liberté, que le peuple français s'est levé pour dénoncer les violences policières. On nous a interdit de marcher. Les raisons ne sont pas valables. On nous a prétexté qu'il n'y a pas assez de policiers. Beaumont-sur-Oise est rempli de policiers depuis 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes sur la place, ici. Il y a énormément de policiers.
Vous avez tué un gamin! Vous avez tué un gamin!
Le moment est venu pour le pays de s'attaquer sérieusement aux problèmes profonds du racisme et de la discrimination raciale parmi les forces de l'ordre.
Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile.
Nous exigeons qu'ils tiennent leurs enfants.
Il faudrait continuer à recevoir les politiques et les méthodes des forces de l'ordre afin d'assurer des garanties contre l'utilisation d'une force disproportionnée lors des manifestations.
Et quand on voit Darmanin, ce violeur !
J'ai décidé qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes ce soir et cette nuit mobilisés, dont 5 000 en plaine parisienne et des moyens techniques et technologiques importants pour lutter évidemment contre ces émeutes, pour procéder à des interpellations et surtout pour rétablir l'ordre républicain.
Justice pour elle ! Justice pour elle ! Justice pour elle !
Les infos choisies. c'est les infos choisies. Extrait de l'émission Sur le fil, Radio Galère, juin 2023, sur la thématique de la honte.
Et puis finalement, ces dernières semaines auront été remplies d'images, plus honteuses les unes que les autres. Le meurtre de Naël, et avec cette vidéo, toutes les autres qu'elle charrie dans ma mémoire. Où la police est coupable d'agressions et crimes racistes, sur des enfants ou des adultes. Et les noms, où il n'y aura pas eu de vidéo pour venir contredire la version des forces de l'ordre. Ces images me paralysent, tout comme les discours. Plus abjectes les uns que les autres. Et puis, il y a ces énèmes rappels de réalité sociologique dont le gouvernement, celui sous lequel nous vivons actuellement et ceux qui l'ont précédé, auront prouvé qu'ils n'en ont rien à foutre. Il y aura même ce que l'on appelle désormais la cagnotte de la honte, amassant un soutien sans pareil pour un meurtrier d'enfants et une institution colonialiste réprimant les corps et les esprits ne marchant pas à son pas de loi. Paralysée et triste, parce que je ne comprends pas, pour emprunter ces mots à Diaty Diallo, autrice du roman « Deux secondes d'air qui brûle », que protéger des enfants, des jeunes, ne soit pas inconditionnel pour toutes et tous. Face à cet écœurement, j'ai voulu parler de la chanson de Diems, « Ma France à moi », où le refrain dit « C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge ». Diems, pour une milléniale comme moi, c'est une icône. De son nom, Mélanie Georgiade, elle perce en 2003 avec le titre DJ, tiré de son deuxième album, Brut de femme. Le titre dont je parle ici est lui issu de son troisième album, Dans ma bulle, sorti en 2006, soit quelques mois après ce que l'on appelle désormais les émeutes de 2005, qui aura vu des révoltes et soulèvements populaires pour dénoncer les morts de Zayed Bena et Bouna Traoré, respectivement 15 et 17 ans, voulant fuir un contrôle de police. En octobre 2005, j'ai 16 ans. Je suis au lycée et ça fait quelques années que le monde devient toujours plus grand, toujours plus complexe. Ma France à moi est un single. Le clip passe alors sur toutes les chaînes musicales. Un homme raciste se voit poursuivi, de poste de radio en poste de radio, par la chanson, et les regards des figurants et figurantes, tranquilles mais puissants. La honte change de camp. Comme souvent avec Diams, qui a 26 ans à ce moment, le texte est dédié à la jeunesse. En particulier celle des bâtiments, des banlieues, périphérie stigmatisée des villes, une jeunesse désignée alors comme homogène et, comme le dit Diams, largement incomprise, qui fait tant parler d'elle lors de la décennie 2000, au travers de reportages, livres et films plus sordides les uns que les autres. Des représentations caricaturales, soit déformées ou même carrément fausses, montées de toutes pièces pour renforcer la honte et broyer l'estime de soi et de nos communautés. Diams y oppose un autre son de cloche. Une fierté, une revendication, un amour inconditionnel justement, à la jeunesse, dont c'est le droit de s'amuser, de faire des bêtises et d'être insouciante. Le monde, la bulle, de Diams, est parcouru par l'ouverture de nos horizons, avec la démocratisation du numérique et des technologies, où en tant qu'ados, nous voyons nos temps et nos relations s'étendre sur les espaces virtuels et au-delà des frontières de nos villes, de la France et de l'Europe. C'est un quotidien, fait de plein de petites choses, qui s'additionnent et s'accumulent même, qui remplissent le temps et les pensées. Une jeunesse pleine de différences et de trajectoires multiples. Un appel à la solidarité. C'est aussi le droit de se révolter, lutter pour un monde plus juste qui nous fait défaut. Un cri de rage pour la chanteuse, le seum contre une France intolérante et gênante, qui contrôle, punit et assassine. Ce que Diams revendique dans ses textes, c'est bien le droit à la joie, à la légèreté et à la dignité. Et de fait, l'autonomie politique d'agir et de se définir pour des populations des territoires que le pouvoir s'efforce de condamner par délits de faciès, de comptes en banque ou de capital matériel. Aujourd'hui, Mélanie Georgiade a raccroché le micro, quitté le monde de la musique. Elle ne souhaite plus performer les chansons qu'elle aura faites sous le pseudo de Diams. Alors j'aimerais lui demander pardon de l'avoir mise en lumière le temps de cette chronique. Ainsi, Diams devient une figure, un personnage que j'aime imaginer en héroïne de shonen, se battant contre la tolérance et pour ce en quoi elle croit juste, entourée de son crew au nom de la liberté. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous laisse avec le dernier couplet de « Ma France à moi » de Diams.
Évacuée, elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit et refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi c'est pas la leur, celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes anti-rap sur la FM, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes, celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante, celle qui regarde du l'UNESCO et regrette le temps des choristes qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi c'est pas la leur, qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés, celle qui pue le racisme mais qui fait semblant d'être ouverte, cette France hypocrite qui est peut-être
toujours bien fait son travail. Celle qui se gratte les couilles à table en regardant l'orange âme. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
Depuis un moment, je vis plutôt bien ma vie de PD. Aujourd'hui, la honte que je ressens, le plus souvent, elle est plus sexuelle, elle est nationale. Aujourd'hui, c'est les mouvements nationalistes qui parlent de fierté et d'identité, qui veulent s'approprier un territoire, une histoire, contrôler les mouvements et les échanges. Avec d'autres, j'essaye de lutter contre cette fierté nationale, de défendre une politique d'accueil, de soutenir des personnes qui arrivent. Mais en même temps, j'ai grandi sur ce territoire, j'ai hérité de cette histoire, et souvent, je ressens de la honte dans ce qui en est fait. Le mois dernier, je suis allé à Paris. À l'arrivée à la gare de Marne-la-Vallée, le train s'est vidé. À la fin, il restait sur le quai un groupe, une grosse dizaine de contrôleurs, une petite dizaine de flics et de jeunes avec des chaussures usées mais aucun bagage. Les contrôleurs les avaient sortis du train, les flics les ont sortis de la gare. Ils étaient perdus à l'entrée de Disneyland. Je leur ai montré le RER, on a discuté pendant le trajet. Abdulrahman et Oumar, âgés de 16 ans, originaires de Côte d'Ivoire. Ils avaient traversé le Sahara, la Libye, la Méditerranée, l'Italie. L'un d'eux avait reçu une OQTF à Nice avec une date de naissance modifiée par les flics. Les deux n'avaient ni mangé ni bu depuis la veille. J'ai cherché des contacts d'associations et d'avocates à Paris. J'ai pas trouvé de lieu pour qu'ils puissent passer la nuit. Je leur ai donné un paquet de gâteaux. Ils m'ont remercié. J'ai eu honte que les seules réactions à leur arrivée soient des contrôles et des expulsions. Et j'ai eu honte aussi qu'ils se sentent si reconnaissants pour 3 gâteaux et 2 infos. 2 semaines après, toujours à Paris, des jeunes exilés avec des militantes, des avocats, des élus ont tenté de s'installer devant le Conseil d'État. Depuis plus de 2 mois, 450 jeunes vivaient dans une ancienne école en attendant d'obtenir la reconnaissance de leur minorité et une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Sans attendre la décision d'expulsion du squat, ils et elles avaient décidé d'installer un campement sur une place publique pour rendre visible leur situation, comme d'autres l'avaient déjà fait en décembre dernier. Et cette fois, les flics les ont virés avant même d'avoir le temps de s'installer, avec des coups, des insultes, des arrestations et l'encerclement, puis la dispersion des jeunes. C'était le 20 juin, la journée mondiale des réfugiés. RESF a publié un communiqué « Soutien aux mineurs du Palais Royal, honte à ceux qui les violentent ». Moi j'ai eu honte en voyant les vidéos des jeunes gazés et matraqués. J'ai eu honte aussi en pensant qu'avec les infos que je leur avais données, c'était possible qu'Abdulrahman et Oumar soient sur la place. Le samedi suivant à Marseille, SOS Méditerranée organisait un concert de soutien à côté du MUSEM. Quand je suis arrivé vers 19h, une centaine de personnes faisaient la queue pour entrer, et en haut d'un immeuble du panier à côté, à la fois éloigné et visible, une banderole avec écrit « Qu'il retourne en Afrique », signé Defend Europe, le groupe local des générations identitaires. Le même groupe qui avait été condamné en 2018 pour avoir attaqué physiquement des membres de l'équipe d'Assos Méditerranée dans leurs locaux. Moi j'allais au concert avec un collectif qui accompagne des jeunes exilés isolés, qui avaient reçu des invitations d'Assos Méditerranée. J'ai eu honte quand les jeunes sont arrivés, au moment où tout le monde regardait la banderole. Même si j'aurais dit que le concert s'était aussi organisé pour qu'ils sachent que tout le monde ne pensait pas ça. Et le samedi suivant, c'était le jour de la Pride. Depuis le début du mois, dans les marches des fiertés, on retrouvait des banderoles et des cortèges contre la loi Darmanin, le projet de loi sur l'immigration annoncé par le gouvernement, pour limiter encore un peu plus l'accès au séjour, à l'asile ou à la santé pour les exilés. Mais à Marseille, le collectif organisateur a publié la veille un communiqué annonçant le report de la marche. La préfecture de police a décidé de se désengager du dispositif de sécurité pour assurer d'autres missions. Après 3 jours d'émeute, suite à la mort de Naël, les flics ont préféré stationner en blindé dans le centre ou dans les quartiers, ou arrêter des ados pour qu'ils soient jugés et emprisonnés, plutôt que de détourner la circulation automobile sur le parcours de la Pride. Un cortège autonome a quand même pu montrer la solidarité entre les queers et les émeutes, contre le racisme et la répression, mais j'ai eu honte de cette concurrence organisée entre la fierté des queers d'un côté, et de l'autre la colère des jeunes racisés, de l'immigration postcoloniale et des quartiers populaires. Honte nationale et fierté queer sont liées, mais leurs liens continuent toujours d'évoluer. Un mois avant la marche de Marseille, à Saint-Denis, avait lieu la 3e Pride des banlieues, avec des revendications locales pour faciliter l'accès au logement des personnes LGBTI vivant dans les quartiers populaires, et aussi pour que les luttes LGBTI ne soient plus utilisées pour stigmatiser les habitants et habitantes des quartiers populaires.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
14-07, un son sur le 14 juillet, par le Sous-Marin, dans leur album Atmosphère primaire, que j'ai beaucoup écouté par le passé. On n'est pas des fils et des filles de Marianne, non. On ne se reconnaît pas dans la France à Nicolas, non, ou à Emmanuel, non plus. Nos chants révolutionnaires ne sont pas écrits dans leur dictionnaire. Cette chanson, je la kiffe. elle amène une autre vision de la France. On est vénère, on n'a pas envie de se plier au symbole républicain, on a envie de lui cracher dessus et de tout brûler. Non, on n'est pas constructif, et alors ? Non, les flics ne sont pas des pédales. Les pédales, elles ont trop la classe. Cette chanson contient aussi une insulte homophobe. Elle est écrite par 4 mecs cis racisés de Bordeaux. Je ne l'excuse pas, mais j'ai envie que vos oreilles écoutent ce qu'ils ont d'autre à dire. Car malgré ce mot, cette chanson m'a toujours donné de la force.
Putain de merde, ok. 7, 6, os, droite. 14 juillet, arracheur de bitume. Califrac, ok. 1.
Bienvenue là où on commémore la fête nationale. Avec cocktail molotov et bombe artisanale. C'est keuf contre jeune, voyou contre voyou. Képi contre cagoule, flashball contre caillou. Aucun respect pour le code civique. Parce qu'à l'arrière du scénic, ces grosses pédales bafouent le code pénal. Hein. Depuis tout jeune, tous anti-keuf. Ces bâtards peuvent t'embarquer ou te braquer pour un tic-keuf. 14 juillet, aucune marche événementielle. Nous on fête les amnisties et les grâces présidentielles. On n'est pas les fils de Marianne, ni le peuple à Nicolas. On mélange révolte, whisky et Coca-Cola. Ce soir faudra prévoir pompiers et extincteurs. Nos troupes sont prêtes à caillasser les inspecteurs. Donne-moi un stylo que je réécrive l'histoire. Et que je donne à la vengeance un petit goût de victoire. Aïe. Ok, aïe. 14 juillet, un putain de 14 juillet. Hey. Écoute ça, 1,
14-07, fête nationale, faites pas la tête, poussez la chansonnette, foncez au collal, achetez un mauvais pinard et un morceau de fromage, bande de trimards, faites pas les ignares, l'histoire de France mérite un gommage, dis-moi qui sont ces gros nazes, qui nous parlent de culture, ça devient dur, je prédis des points de suture à notre futur, merde j'ai besoin d'une coupure, je te fais le topo, je sature, viens on se barre, mets du coco dans la tuture. Et roule un sbar par habitude, c'est parti fixe. On est 14, on met le feu, mais sans artifice. Je travaille mon art, c'est le rap du biche. Même s'il faut très peu de temps pour que mes poches rap ici. Ouais, c'est la hesse, mais c'est pas la mendicité. Je tends la main à qui veut contrer ce qu'ils ont pronostiqué. C'est la journée du peuple, j'ai bien médité. En fait, l'État a voulu faire sa fête et je veux pas être invité. Mauvais jour, 14-07, mauvais jour, mauvais jour.
Allez riez, vous nous avez pillés, triés, on n'a pas oublié, la nation est rouillée, un pétard mouillé, les crouillés, les autres indigènes venus souiller, on a l'habitude de se faire fouiller, des fois ça part en couillé, ça finit sous les couilles crabouillées, la gueule contre le ciment risque pas de briller, on a tous eu 20 ans, puis le ghetto nous a pliés, on court après un bout, un pillé, on finit par dévier, demande au tout bibo greffier. Repliés, des anges aux ailes mal dépliés qui s'envolent puis se mettent à vriller. Il nous reste plus qu'à prier. On est tous grillés. Les petits frérots dans la rue, pieds, poings liés. Allez riez. Qui a craché sur nos noms n'a jamais essuyé. 14 juillet, 14 juillet, 14 juillet.
Le jour de défilé sur les Champs-Élysées, on fête la révolution, paradoxe à préciser. Poudre aux yeux dans le journal télévisé, euphorie générale pour finir hypnotisé. Tout n'est qu'artifice, pas comme les menottes ou les balles de la police. Ah, discours officiel et sourire usuel, hypocrite comme le premier article constitutionnel. Fête nationale, patriotisme hexagonal, la France exhibe son arsenal. C'est comme Tikenja, le pays va mal, de mal en pire masqué par le bouquet final. Allez vas-y, chante la Marseillaise, on trépas avec Kaya, CS ultra cailleuse. Nos hymnes révolutionnaires, les notes ne sont pas écrites dans leur dictionnaire.
De la Bastille des esprits, appelle Robespierre pour une sale mutinerie. Si c'est des textes, ça ressemble plus à une armurerie. J'gueule national sur le dos, un maillot de l'Algérie. Fils du P, 34 clics, le sous-marin. 14 juillet.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord...
Les infos choisies, vendredi, 12h30.
C'était il y a 70 ans aujourd'hui, le 14 juillet 1953. La police parisienne tirait sur une manifestation du mouvement algérien qui réclamait des droits, la justice et la liberté en Algérie. Ces morts seront oubliées de la grande histoire. En 2014 sort un film documentaire, Les balles du 14 juillet 1953, qui retrace cette histoire et donne la parole à des personnes qui l'ont vécu. En octobre 2021, on a rencontré Daniel Kupferstein, le réalisateur. On va écouter un extrait de l'interview qu'on a réalisé pour l'émission d'Histoire qui ne fait pas d'histoire, que vous avez peut-être entendu sur les ondes de Radio Galère.
À Paris, depuis 1935, il y a des manifestations autour du 14 juillet, faites par la gauche politique et syndicale, et donc jusqu'en 1953, pour honorer la Révolution française. Le matin, en gros, c'est l'armée qui défile sur les Champs-Élysées, et l'après-midi, c'est une manifestation un peu comme un 1er mai. Voilà. À partir de 1950, le mouvement nationaliste algérien décide de se joindre à cette manifestation de syndicats et partis politiques français sur ces mots d'ordre. Donc mots d'ordre essentiellement sur l'égalité en Algérie, contre les élections truquées, pour plus de liberté, contre la domination française. Petit à petit, il commence à y avoir des mots d'ordre indépendantistes. Il y a quelques drapeaux nationalistes algériens qui sortent de temps en temps. En 1953, grand défilé, essentiellement dans l'environnement du Parti communiste français. Et en fin de défilé, il y a les nationalistes algériens du MTLD, PPA-MTLD, Parti du peuple algérien, mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, qui défile sur ses propres mots d'ordre, etc. On compte un tiers de manifestants algériens sur l'ensemble de la manifestation, ce qui fait que c'est énorme. En plus, ils défilent complètement différemment des organisations françaises, parce que les organisations françaises, bah, c'est une fête, hein, c'est la fête du 14 juillet, alors que les Algériens défilent en rang serré, avec un service d'ordre de chaque côté, d'une manière très nette, etc. Ils défilent d'une manière presque militaire. Et donc, ils sont impressionnants, surtout qu'ils représentent un tiers de l'ensemble des manifestants. Au cours de la manifestation, il y a des drapeaux algériens qui ressortent, drapeaux du mouvement nationaliste algérien qui ressort. Il y a déjà une provocation de parachutistes à place de la Bastille, au départ du défilé, des petits affrontements, etc. Mais enfin bon, le défilé se déroule normalement de la place de la Bastille à la place de la Nation. Arrivent en fin de parcours donc les nationalistes algériens, et au moment où ils s'en vont, ils replient les banderoles, etc. À ce moment-là, il y a une charge de la police parisienne pour arracher les banderoles, portrait de Messali Hadj, qui était le leader nationaliste. Et comme ils ne sont pas très nombreux, et puis que les Algériens sont très nombreux, et puis très... certains sont entraînés, il y a un service d'ordre, et bien ils s'affrontent aux policiers à main nue. Et en fait, ils foutent la pâtée aux flics. Ça, ils n'ont pas aimé. Donc, ils reculent. Il y a même quelques deux quarts qui sont brûlés, commencent à brûler. Là-dessus, les flics reviennent et ils tirent dans le tas. Pour aller vite, hein, parce qu'il y a eu plusieurs allers-retours. Mais en gros, ils reviennent, ils tirent dans le tas. Résultat, près de 50 blessés par balle en l'espace de un quart d'heure, 20 minutes. Donc, on tire dans le tas. On relèvera 7 morts, 6 Algériens et un Français. Voilà pour le contexte. C'est un moment un peu charnière et qui peut faire comprendre ce que disent des témoins. C'est comme un déclic pour ce qui est arrivé quelques mois plus tard, c'est-à-dire le 1er novembre 1954, le début de ce que les Algériens ont appelé la révolution indépendantiste algérienne de libération nationale. Et donc, ça a marqué un petit peu les esprits. Il me semble que c'est plutôt un racisme ordinaire de la police parisienne. Il y avait de plus en plus d'articles sur les Nord-Africains comme quoi c'était des voleurs, comme quoi c'était des mafieux, et qu'il fallait des mesures appropriées, violentes s'il le fallait, etc. C'était quelque chose qui était déjà dans l'air du temps, si on peut appeler ça comme ça. Ils vivaient en marge, dans des hôtels, voire certains bidonvilles. Il y avait très peu de liens réel entre Français et Algériens à l'époque, etc. Donc il y avait une espèce de méfiance. Voilà, ça tombait de source. Et je pense que c'est plutôt ça qui était un des éléments de méfiance importante qui faisait que quand on voit des Algériens manifester, même s'ils étaient endimanchés, etc., pour un flic de base, c'est quelque part un sous-homme qui fallait régler ses comptes et surtout lui apprendre à obéir. Voilà. Dans ma tête, c'est ce que je pense. C'est pourquoi ils sont abandonnés simplement à tirer dans le tas sans gros problème. C'est comme ça que je le ressens. D'ailleurs, les policiers, quand je les ai interviewés, ils disent les hordes qui arrivent, etc. Oui, complètement.
Après, c'était le bateau, mais en ce langage-là, on le retrouve encore aujourd'hui. Hein, quand on parle de hordes, de sauvagement, de racailles, c'est quelque chose qui s'est transmis pour le coup.
Côté pouvoir français, légitime défense, donc l'instruction s'est terminée par un non-lieu. Donc il ne s'est rien passé, aucun jugement, aucun policier a été inquiété, tout baigne. Les 7 morts, les familles n'ont plus qu'à panser les plaies, et puis c'est tout. Voilà, d'un point de vue officiel, ça a été terminé. C'est quelque chose qui est tombé dans l'oubli parce qu'il y a une phrase qui est vachement importante dans le film, c'est ce que dit Emmanuel Blanchard, c'est-à-dire « il n'y a pas de mémoire sans porteur de mémoire ». Or, sur cette histoire, il n'y a pas eu de porteur de mémoire. À la fois en France, à l'époque, en 1953, la seule force qu'aurait pu reprendre cette histoire, c'était le Parti communiste français, qui était présent dans la manifestation, etc. Or, le 4 août 1953, donc 19 jours après, enfin 20 jours après, démarre la plus grande grève dans la fonction publique qui, en gros, paralyse toute la France, qui est déclenchée par des postiers de force ouvrière et qui, toute la fonction publique est bloquée. Et évidemment, les militants communistes, syndicaux ou cégétistes, etc., s'engouffrent dans cette nouvelle alliance, etc., et ces morts-là disparaissent un petit peu. Je pense aussi que comme c'est essentiellement des Algériens, je pense que ça a joué, ça serait que des Français, peut-être que ça aurait été différent. Alors, côté Algérien, le mouvement nationaliste algérien en 1953, c'est-à-dire à ce moment-là, était complètement divisé. Ils s'engueulaient déjà entre eux. Et puis, ils n'avaient pas de force importante pour pouvoir voilà, pour pouvoir porter cette mémoire, etc. Donc ils étaient divisés, et puis très rapidement après, il y a eu le début, donc il y a eu la création de l'organisation spéciale, et puis du FLN, et ils se sont lancés dans la guerre de libération nationale, ce qui fait que les morts de, du 14 juillet ont un peu disparu de la mémoire. En plus, comme en 1953, les militants nationalistes algériens, tous les militants nationalistes algériens, défilaient derrière le drapeau et le portrait de Messali Hadj, qui est devenu à partir de 1954 l'ennemi avec, en montant le MNA contre le FLN, etc. Et qu'il y a eu des affrontements fratricides entre ces deux partis. Du coup, quelque part, c'était impensable pour le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir, comme ils ont commencé à réécrire leur histoire, de revendiquer ces morts. Donc, ce qui fait que ces 6 Algériens morts, ce jour-là, sont tombés dans l'oubli complet. Et donc, sur les 6, il y en a 2 qui sont dans les cimetières des martyrs, mais il n'y en a aucun qui est reconnu officiellement.
Je crois qu'ils n'écoutent pas.
Sûr, on les a perdus.
Oh! T'écoutes ou quoi?
Et t'écoutes ou quoi?
Viens, viens, viens.
Et voilà, c'est la fin des infos choisies.
Merci de nous avoir écoutés. Wow.
Et désolé pour les bugs techniques pour celles et ceux qui nous écoutent en FM. Voilà.
Big up à So.
Big up à Sonotone qui nous a fourni des petits sons que et vous avez entendu sa voix. On se retrouve le week-end pro. Merci à la technique, bravo.
Ben, c'était... bravo, c'était un travail d'équipe.
Ciao, la semaine prochaine.
Arrivederci.
Ah oui, et demain n'oubliez pas, alors, attends, tu peux stopper ça s'il te plaît. Demain n'oubliez pas, il y a Enrico Macias qui part en concert au Vieux-Port. Du coup, on voulait lui faire un gros big up à Enrico en mettant une chanson de presque de lui. Voilà. On s'écoute ça, et tu peux mettre fort dans ta voiture si tu as envie de danser. Danse pas trop dans ta voiture quand même.
T'es comme sous l'axe, j'fume que de la moulax. Baiser sur tes max, le rétro gauche nique ma Rolex. J'suis tellement une moula qu'elle veut que je la casse. 5 pistes que j'nique le game, putain le temps passe.
Perdre la moula, j'ai même pas des saoulés. Eux enfoirés, les méchants, tu me reconnais. Les deux bois, les showcases, les tempêtes de la monnaie. Donnez-moi de la moula, une bouteille de collage, j'ai même pas décollé. Qui t'a compressé, c'est pour mieux décompresser. Demande au V, c'est pas du rap de caissier. Les aristocrates sont là que pour encaisser. Caissier, encaissé, je sens que je vais tout casser. Totorina, juste avant son décès. Guitarisé comme un mec d'ACDC.
Donnez-moi de la moula, gars.
Sur Voilà, c'était un spécial big up pour Enrico en concert demain soir au Vieux-Port, c'est gratos. Et restez bien à l'antenne, à l'écoute de Radio Galère, puisque dans quelques minutes aura lieu l'agenda alternatif avec Mélo. Et elle m'a dit qu'elle avait des invités aujourd'hui. Ciao, ciao, bon après-midi à toutes et à tous.